Voici Raphaël Jacob.
Salut Raph.
Salut Pat.
Dernière chronique de l'année pour moi avec toi, mais toi tu vas continuer le combat avec Marie-Claude Lavallée tout au long
en effet.
De l'été. Parfait. Écoute, tu veux revenir sur le moment le plus marquant de la saison, selon toi, de la saison Trump?
Oui, parce que, écoute, le mot marquant est important. Il y a une différence entre un moment fort et un moment marquant. Avec Donald Trump, on était plus dans le moment marquant que dans le moment fort. Tu sais, on s'entend, là, ça fait pas juste une saison qu'on voit Donald Trump, ça fait maintenant presque 4 ans. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la dernière année, elle a été particulièrement charnière, particulièrement chargée. Et je pensais à ça, je me disais, pour la dernière chronique de la saison, y a-tu justement un moment qui a été plus marquant que les autres?
Hey, puis... Mon Dieu, t'as dû passer une nuit complète là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de matériel.
Une nuit?
Hein?
Un mois?
Sérieusement? Sérieusement? Oui. J'ai passé la journée complète hier et aujourd'hui. C'est même pas une farce. Je me disais, j'ai vraiment essayé de limiter ça à un, puis je me disais, pourquoi celui-ci plus qu'un autre, ou qu'un autre, ou qu'un autre? Mais en même temps, je sais pas, messieurs, vous allez être d'accord avec moi, mais tu sais, il y a eu certaines déclarations, certaines sorties, certains moments de la présidence Trump qui sont comme dans une ligue à part dans la réaction qu'ils ont causée. Exemple. Et c'est pas parce que c'est toujours nécessairement grave, mais c'est souvent le niveau de surréalisme. Donc, un exemple, je sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, quand Donald Trump était allé proposer, ou en fait demander d'acheter le Groenland. Oh. Tu sais, ça faisait partie des épisodes où, tu sais, je me rappelle, là, comme si c'était hier. Le moment où j'ai lu ça, il a fallu que je le relise 3 fois parce que j'étais sûr que c'était une fausse nouvelle. Tu sais, il y a eu des moments comme ça. Et donc, le moment qui, pour moi, dans toute la dernière année, dans la saison de radio tout au moins, là, a été le plus marquant et sans farce peut-être le plus symbolique, ça a été ce moment-ci. On va l'écouter et si les gens, j'en doute, mais s'il y en a qui se rappellent pas du contexte, on va rétablir le contexte après coup. Donc, on écoute.
And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. One minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that.
On va traduire, c'est la fois où Trump a dit, écoutez, il y a du désinfectant là, qu'on prend, là, puis ça tue le microbe, évidemment, tu sais. Si le microbe est sur votre table, puis vous passez de l'eau de Javel dessus, ça va tuer le microbe. Mais tout le monde sait, sauf Donald Trump, que c'est pas une bonne idée de l'ingérer. Ben, c'est ce qu'il suggérait pour nettoyer les poumons.
Exactement. Et donc, pour ceux qui habitaient sous une roche depuis les 3 derniers mois, qui n'ont pas entendu parler de cet épisode-là.
Parce que, tu sais, Raphaël, la tête de mort sur la bouteille de désinfectant, c'est comme un indice.
C'est un signe. C'est un signe pour ceux qui n'ont pas porté attention.
Mais probablement que M. Trump a jamais désinfecté quelque chose lui-même, fait qu'il peut pas voir la tête de mort.
Sais-tu, c'est peut-être la théorie qui se tient le plus que j'ai entendue sur la sortie de Donald Trump depuis les 3 derniers mois. Mais il reste que, où ça a été un moment marquant, c'est que il faut quand même se replonger à ce moment-là. Parce que là, ça faisait à peu près 1 mois que la pandémie vraiment avait commencé aux États-Unis en grande pompe, si on veut. Et ça, on l'oublie. Mais pendant les premières semaines, quand Donald Trump avait donné son adresse à la Nation, qu'il avait commencé à tenir des points de presse quotidiens, son taux d'approbation, il était à son plus haut niveau de toute sa présidence. Parce que pendant un bref moment, justement, ça n'a pas été très long, mais on s'est dit, crime, peut-être que l'occasion est tellement grave que là, ça va être le moment où il va être présidentiel, où il va être rassembleur, tout au moins autant que lui peut l'être. Mais Donald Trump, ça reste Donald Trump et il est vite redevenu Donald Trump. Donc, les points de presse, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a vite dérapé. C'est devenu des règlements de compte entre lui et les journalistes qui étaient présents. Puis, éventuellement, de fil en aiguille, on a eu, à la fin avril, cet épisode qui est, encore une fois, complètement surréel, qui a fait en sorte que, presque du jour au lendemain, la Maison-Blanche a cessé de tenir ses points de presse quotidiens sur le coronavirus. Et c'est pas compliqué. Depuis ce temps-là, c'est une crise après l'autre. Le pays se trouve dans un état de crise presque perpétuelle, comme on n'en a pas vu depuis un demi-siècle. Et la présidence de Donald Trump se trouve dans un état de crise comme, je dirais, à aucun moment depuis les 3 dernières années et demie. Donc, si j'ai identifié un moment, c'est celui-là, pas pour les bonnes raisons, ni pour le pays, ni pour le président.
OK, Raphaël, qu'est-ce qu'on surveille cet été? Et pour M. Trump et l'ensemble de la classe politique américaine, c'est pas n'importe quel été, ce sont les mois avant l'automne de la campagne présidentielle.
En effet, évidemment, à ère de pandémie et de crise économique et de crise sociale. Tu mets tout ça ensemble, disons que c'est un cocktail assez spécial à 4 mois du vote, un été présidentiel, un été en fait dans lequel on ne sait même pas à quoi va ressembler la campagne. Donc, tu sais, ce qu'on surveille, je pense, c'est surtout des choses par rapport auxquelles il y a beaucoup, beaucoup de questions auxquelles je prétends pas avoir de réponse. Donc, premièrement, à quoi ça va justement ressembler cette campagne-là cet été? Tu sais, Donald Trump va tenir son premier rallye justement depuis le début de la pandémie demain en Oklahoma. Évidemment, très controversé à cause de la question de la distanciation sociale, surtout que le rallye est censé être tenu à l'intérieur, dans un aréna qui, on s'attend à ce qu'il soit bondé. Donc, première question, est-ce que justement cette controverse-là va faire en sorte que Donald Trump va avoir trop de pression pour faire d'autres rallyes après coup? Est-ce que au contraire, si Donald Trump commence à enfiler ce genre de rallye-là, ça va mettre de la pression sur Joe Biden pour que lui recommence à en faire? Tu sais, il y a tellement de scénarios hypothétiques et carrément inédits. On pourrait avoir un scénario, écoute, dans lequel toi et moi, on se reparle à la mi-août et on a eu 2 mois de campagne dans lequel Donald Trump est devant des foules de dizaines de milliers de personnes et Joe Biden est dans son sous-sol et Joe Biden continue à mener cette course-là. Tu sais, fait que ça, c'est une question. Autre question liée à la campagne, à quoi vont ressembler les conventions? Les politologues américains ont identifié les conventions nationales des deux partis, l'équivalent un petit peu de ce qu'on appellerait un congrès national de partis ici, là, comme le moment d'une campagne présidentielle qui a le plus d'impact sur les intentions de vote. À quoi ça va ressembler ces conventions-là cette année? La convention démocrate est censée commencer le 17 août. En fait, ça va être le début, ça va coïncider exactement avec le début de la nouvelle saison pour nous. La convention républicaine, une semaine plus tard, le 24 août. Il n'y a personne qui peut te garantir présentement à quoi ça va ressembler. Tu sais, fait que c'est bourré de questions. Et je t'ajoute ceci également, plus d'un point de vue social. Tout ce qu'on a présentement comme manifestation, comme contestation, qu'est-ce que ça va donner cet été? Est-ce que le mouvement va s'essouffler? Est-ce qu'au contraire, ça va continuer comme c'est parti depuis les dernières semaines? C'est vraiment un été, je dirais, dans un sens mystérieux parce qu'il y a beaucoup de questions.
Philippe, pas de quoi dire.
Moi, j'ai surtout hâte de voir qui Joe Biden va choisir comme colistière. Tu sais, hier, on a vu qu'Amy Klobuchar s'est retirée de la course, la sénatrice du Minnesota, et puis elle a dit que c'était le temps pour Biden de choisir une femme afro-américaine. Ça met quand même de la pression sur Biden. Ça devrait être assez intéressant de voir où il va diriger son choix.
Certainement. Écoute, il nous reste peu de temps. Pat, permets-moi au moins de te dire ceci. Tu nous as souvent félicité les membres de l'équipe pour s'être revirés sur un discerne avec la COVID-19. On perd peut-être de vue que, dans un sens, tu t'es reviré, toi aussi, mi-quarantaine, avec une nouvelle carrière, dans un sens, animer un show de 4 heures de radio. C'est pas mal moins évident que le commun des mortels peut imaginer. Donc, à la fin de cette première année-là, je te dis bravo et merci.
Merci, Raph.
J'abonde, j'appuie tes paroles, Raphaël.
T'es fin de me rajeunir, mi-quarantaine, mon coquin.
Cadeau d'été.
48, bien sonné. Merci, Raphaël. On se retrouve au mois d'août.
Bon été.
Philippe, je veux te remercier. Parlant de se revirer sur un dixième, je t'ai recruté pour les sports et j'avais dit au boss, s'il y arrivait de quoi de majeur dans l'actualité, Philippe pourrait se retourner. Tu l'as fait avec brio. Merci.
Salut.